Les Mystères du Palais-Royal, cinquième partie. Chapitre 25. Vengeance accomplie. Monsieur de Jacquemet était mort. La lame du couteau avait pénétré jusqu'aux manches, entre les épaules. La chute lui fit traverser le corps, et la pointe rouge et fumante sortit du milieu de la poitrine. Nous le répétons, ce cadavre était horrible, avec son front déchiré, son visage défiguré et sanglant, ses yeux largement ouverts, mais déjà sans regard. Raoul, les lèvres écartées par un sourire d'une expression terrible et farouche, les narines palpitantes et gonflées par une volupté atroce, Raoul, disons-nous, repoussa du pied ce corps mutilé en s'écriant « Allons, je ne me trompais pas, la vengeance est une chose douce !» Les deux cohéritiers et les trois hommes de loi avaient assisté à toute la scène qui précède, immobiles, paralysés, en quelque sorte pétrifié par l'épouvante. Aussi longtemps que dura l'effrayante lutte de Raoul et de M. de Jacquemet, nul d'entre eux, nous l'affirmons, n'aurait été capable de faire un mouvement ou de prononcer une parole. Mais quand la sanglante tragédie fut arrivée à son dénouement, les cinq convives éperdus retrouvèrent en même temps les uns et les autres, et comme par enchantement, la faculté de se mouvoir, de parler, de pleurer, de gémir et de supplier. Tous se jetèrent à genoux autour de Raoul, s'efforçant de saisir ses mains ou ses vêtements. Et l'on entendit s'élever un cœur lamentable, pareil à ceux des drames antiques de Sophocle et d'Euripide. « Grâce !» disait le vicomte de Vertappuy. « Pitié !» criait le baron de Mornesouche. « Miséricorde !» glapissaient les trois hommes noirs. « Montrez-vous grand, généreux, magnanime. Soyez clément, soyez compatissant. Nous sommes des gredins, des coquins, d'affreux drôles. Nous méritons la corde, la roue, et pis encore. Mais nous sommes maris, repentants et confus. » Puis le cœur gémissant reprenait « Grâce, pitié, miséricorde, etc., etc. » Raoul regarda pendant un instant, avec autant de haine que de mépris, les cinq ignobles personnages qui se tordaient à ses genoux, lui donnant gratuitement le spectacle de leur dégoûtante terreur, car ne l'ayant jamais offensé, ils n'avaient rien à craindre de lui. Puis, après avoir réfléchi pendant un instant, il fit signe à l'un des hommes qui se trouvait en faction dans le couloir et qui n'avait pu résister à la tentation d'entr'ouvrir un peu les portes afin d'assister à la lutte. L'homme s'approcha. « Faites monter ici la rose, sa bande et tous les valets du château, » dit Raoul. Au bout de 3 minutes, cet ordre était exécuté et la salle à manger se trouvait remplie de monde. À la vue du cadavre de M. de Jacquemet, l'ex-sergent aux gardes françaises frisa délicatement, d'un air complètement approbateur, sa longue moustache et murmura entre ses dents. « Par ma guitare et par mon épée, voilà de l'ouvrage bien fait. Le pourceau me paraît découpé dans un joli style. » Quant aux valets, ils étaient tremblants et croyaient qu'on les menait à la mort. Volontiers, comme les cohéritiers et les hommes de loi, ils se fussent jetés à genoux. Mais ils n'osaient. Seulement, dans leur frayeur, on entendait leurs dents claquer violemment. « Jetez-moi par la fenêtre cette abominable carcasse !» dit Raoul en désignant le cadavre de M. de Jacquemet. Avant qu'il eût achevé de donner cet ordre, une croisée était ouverte, et l'on entendait le bruit sourd du corps tombant sur les marches du perron. « Bien !» fit le jeune homme. Puis il reprit en s'adressant à la rose. « Avancez ici. »« Présent !» répondit l'ex-sergent avec le salut militaire. « En quoi sont faits les fourreaux des épées de vos hommes ?»« En cuir, et en fameux cuir, foi de la rose, j'ose affirmer. C'est souple et solide, moelleux et fort. » « À merveille. Que 4 hommes débouclent leur ceinture et mettent l'épée à la main. » C'est fait. Que 4 de ses valets prennent chacun un des fourreaux. 4 domestiques, espérant sauver leur vie par une prompte et aveugle soumission, avancèrent aussitôt. La rose ne comprenait point encore l'idée de son chef temporaire. « Est-ce que par hasard, se disait-il, monsieur voudrait faire jouter ces 4 fourreaux, tenus par ces 4 escogriffes, contre 4 bonnes épées aux mains de 4 soldats ? Par ma guitare et par mon épée, l'action serait réjouissante. » Mais le sergent n'eut point à rester longtemps dans l'incertitude. Raoul désigna le vicomte et le baron Toujours prosternée, elle reprit « Empoignez-moi ces deux faquins !» Ce fut fait aussitôt que dit. En même temps, la pointe d'une demi-douzaine de brettes s'approchait de la gorge et de la poitrine de ces misérables. La rose fit avec son épée le geste de larder et se tournant vers Raoul, il demanda « Faut-il ?»«
Non. »«
Alors, monsieur, commandez. »«
Qu'on ôte à ces drôles, habits, vestes et culottes, et vite !» continua Raoul.
Une seconde suffit pour déshabiller le vicomte et le baron, qui, repris par une recrudescence d'épouvante, ne pouvaient plus crier ni prier.
« Et maintenant ?» fit la rose.
« Maintenant que deux hommes les mettent à genoux et les contiennent dans cette position, et que les quatre laquais les fouettent avec les fourreaux d'épée, jusqu'à ce que j'ordonne d'interrompre. »«
Ah, parfait, parfait !» s'écria gaiement l'ex-sergent, qui comprenait enfin.
« Foi de la rose, je n'aurais pas trouvé mieux. Par ma guitare et par mon épée, l'idée est véritablement ingénieuse et poétique. »«
Je vais compter jusqu'à trois, » poursuivit Raoul. « Quand je prononcerai le mot « trois », que les laquais frappent ensemble et continuent bien en mesure. Sinon, je me verrai forcé de leur faire donner une leçon sur les épaules. »
Excepté les deux patients, les trois hommes de loi et les quatre valets fustigateurs, tout le monde se mit à rire.
« Un !» fit Raoul. Les laquais affermirent dans leur main droite les fourreaux de cuir.
« Deux !» articula le jeune homme. Les laquais levèrent la main.
« Trois !»
Les quatre fourreaux retombèrent à la fois sur les chairs endolories du vicomte et du baron. Ces deux personnages poussèrent un épouvantable hurlement et firent un effort surhumain pour se remettre sur leurs jambes. Mais des mains de fer les clouaient à genoux, et le deuxième coup fut frappé avec un ensemble parfait et une admirable régularité. Nous ne nous appesantirons pas plus longtemps sur les détails de ce hideux supplice qu'on appelle la flagellation. Disons seulement qu'au sixième coup, le sang jaillissait des chairs entamées, et qu'au douzième, les gémissements et les cris cessaient de se faire entendre, par la raison bien simple que les victimes étaient sans connaissance.
« Assez !» commanda Raoul.
L'ex-sergent, qu'un tel spectacle amusait beaucoup, trouva que l'ordre d'interrompre le jeu était donné un peu vite. Aussi hasarda-t-il cette idée.
« Par ma guitare et par mon épée, monsieur !» « Il me semble qu'il serait piquant, pendant que nous sommes en train, de fouetter aussi les gens de loi. »«
Inutile !» répliqua Raoul, tandis que les malheureux poussaient les hauts cris. « Pour eux, j'ai autre chose. » Et s'adressant à un laquais, il lui ordonna d'apporter sur la table trois flacons d'eau-de-vie. Ce fut l'affaire d'une seconde, car il y avait dans les armoires de la salle à manger toute une provision de liqueur.
« Maintenant, reprit Raoul, donnez-nous les trois plus grands verres qui soient dans le château. »
Le laquais obéit. Raoul fit remplir ses verres gigantesques, dont chacun contenait une bouteille entière. Puis il dit aux gens de loi,
« Vous allez, mes chers amis, boire à la santé de la justice. »
« De tout notre cœur, » balbutièrent les hommes noirs. Raoul reprit,
« Seulement, mes bons amis, prenez note de ceci. Il faut avaler d'un seul trait le contenu de votre verre. Si vous vous y reprenez à deux fois, ou si vous laissez une seule goutte au fond, voici de braves gens à qui je donne l'ordre de vous brûler incontinent la cervelle. »
Les hommes de loi pâlirent.
« Allons, fit Raoul, le temps presse, dépêchons-nous. »
Cinq ou six canons de pistolets étaient déjà braqués sur les crânes des procureurs. Ils prirent leur parti en braves. Ils saisirent les coupes homériques et, sans s'arrêter, sans reprendre haleine, ils les vidèrent jusqu'à la dernière goutte, après avoir crié, sur l'ordre de Raoul, « À la santé de la justice !» L'effet produit fut terrible et subi. Les visages pâles devinrent pourpres. Les verres s'échappèrent des mains défaillantes qui ne pouvaient plus les tenir, et les trois hommes, foudroyés par l'alcool, roulèrent à la fois sur le sol. S'ils n'étaient pas tout à fait morts, ils n'en valaient pas beaucoup mieux.
Quand les gens de loi boivent à la santé de la justice, dit Raoul en manière de réflexion philosophique, voilà ce qui devrait toujours arriver.
Puis, se tournant vers ces hommes qui, depuis le commencement de ces scènes épisodiques, s'amusaient énormément, il leur dit,
mes amis, si je vous ai attachés à ma fortune, si je vous ai conduits jusqu'ici, c'est que j'avais besoin de vous pour mener à bien ma vengeance. Cette vengeance est accomplie. et certes, je ne pouvais la rêver ni plus belle, ni plus large. Je vous la dois en partie et veux vous la payer royalement. » Raoul s'interrompit pour jeter sur la table une pesante bourse pleine d'or. Puis il reprit. « Vous trouverez là-dedans la somme que j'ai promise pour vous à la rose, et même une centaine de louis en plus. Mais ce n'est pas tout. Un tel salaire serait mesquin, et je vous le répète, je veux que le vôtre soit royal. Le château dans lequel nous nous trouvons est mon bien. Il est à moi par la volonté suprême de son noble et dernier possesseur. Eh bien, ce qu'il m'avait donné, je vous le donne à mon tour. Ce qui est ici vous appartient désormais. Je vous en fais largesse. Prenez, pillez, tout est à vous. » Un immense cri de joie s'échappa de la poitrine des aventuriers. « Pillage » répétèrent-ils. « Pillage !» Et les plus pressés firent main basse sur l'argenterie qui garnissait la table. « Par ma guitare et mon épée, » murmura la rose en glissant dans ses larges poches quelques cuillères et quelques fourchettes, « ce gentilhomme a des idées vraiment sublimes. C'est plaisir de travailler sous ses ordres. » Puis, tout en fredonnant les premiers vers d'un couplet sentimental, il saisit un flambeau et se disposa à parcourir le château, depuis les caves jusqu'au grenier, pour y faire un ample butin. Ses hommes imitèrent son exemple. Bientôt le vieux manoir tout entier fut rempli des cris sauvages et désordonnés de ces bandits. Cependant, Raoul avait déjà quitté le château. Il se dirigea rapidement vers cette partie du parc où les chevaux étaient attachés. Il s'élança sur sa monture, traversa au grand galop les rues du village toujours endormi, et ne ralentit son allure que quand il fut parvenu au sommet de cette éminence dont nous avons déjà parlé plus d'une fois et qui dominait le manoir et le parc. Là, il s'arrêta et se retourna. La nuit était profonde et de grands nuages noirs se traînaient lentement sur la surface sombre du ciel. Derrière les vitres de la façade du château, on voyait passer et repasser des lumières, pareilles à ces feux follets qui se jouent sur les marécages. Soudain, l'une des clartés devint fixe. Puis elle s'agrandit peu à peu, et Raoul vit monter vers le ciel une colonne de fumée rougeâtre. Bientôt cette fumée s'élargit, devint plus épaisse et plus sombre. Une gerbe d'étincelles jaillit comme le bouquet d'un feu d'artifice. Une flamme bleuâtre ondula comme un gigantesque serpent, et s'élançant des fenêtres brisées, elle lécha de ses mille langues fourchues les corniches de pierre et les ardoises de la toiture. « Le feu est au château, » murmura Raoul. « Je m'y attendais, et ça devait être. Noble manoir, quelle triste fin. Mais c'est justice. » Et toujours immobile, il continua à regarder. L'incendie que personne ne songeait à combattre grandissait d'une seconde à l'autre. Bientôt tout le ciel entier fut pourpre. « Ce que j'avais promis, je l'ai tenu, » s'écria le jeune homme. « J'ai apporté ici le deuil, le sang et le feu. » Puis détournant, mais comme à regret, la tête de son cheval, il le lança au grand galop, sur le versant de la colline, dans la direction du village qu'il avait quitté quelques heures auparavant. Quand il atteignit l'auberge, il trouva Jacques dans la cour, tenant en main, ainsi qu'il lui en avait donné l'ordre, deux chevaux sellés et bridés. Raoul, laissant à sa monture le soin de regagner toute seule l'écurie, s'élança sur l'un de ses chevaux et, suivi de Jacques, prit rapidement la route de Paris. Pendant plus d'une heure et demie, le maître et le valet coururent à franc étrier, sans qu'une seule parole fût échangée entre eux. Au bout de ce temps, pour la première fois, Raoul regarda en arrière. Entre le château de la Tremblay et l'endroit où il se trouvait, il y avait plus de 5 lieues. Et cependant, à l'horizon, le ciel était aussi lumineux que si le soleil eût été prêt à paraître derrière les collines. « Ah, monsieur le chevalier !» s'écria Jacques. « Quel incendie terrible il doit y avoir là-bas » Raoul ne répondit point et remit son cheval au galop. Mais tout en galopant, il se demandait « Ne me suis-je pas trop vengé ?» Si nos lecteurs sont curieux de connaître quel fut le sort du vicomte de Vertappuis, du baron de Mort-de-Souche et des 3 hommes de loi, personnages dignes de tant d'intérêt, nous leur répondrons ceci. Les 2 cohéritiers du chevalier de Jacquemet étaient restés dans la salle à manger, entièrement privés de connaissance, par suite de la fustigation énergique qu'ils avaient subie. L'ivresse terrible de l'eau-de-vie avait mis les trois procureurs absolument dans le même cas. À partir du moment où commença le pillage du château, personne ne s'occupa plus d'eux. Les valets s'étaient enfuis, les bandits forçaient les meubles et enfonçaient les portes des armoires. La torche de l'un d'eux mit le feu à une draperie et l'incendie se développa rapidement. Quand les flammes et la fumée envahirent la salle à manger, la chaleur dévorante arracha à leur évanouissement le vicomte de Vertappuis et l'un des procureurs. Ces deux malheureux essayèrent, en se traînant sur le plancher, de gagner un escalier. Mais la flamme victorieuse leur barra le passage. Un seul chemin restait libre encore, la fenêtre. Ils s'élancèrent. L'un s'ouvrit le crâne en tombant, l'autre se brisa les reins. Tous deux moururent sur le coup. Quant aux deux autres gens de loi et au baron de Mornesouche, ils furent asphyxiés par la fumée, sans avoir repris connaissance. Tous les cinq étaient d'affreux gredins. Nous en devons penser autant du chevalier de Jacquemet. Et cependant, il nous paraît chrétien et charitable de dire à propos de ces six drôles « Dieu et leur âme ». Aussitôt que le pillage avait commencé, les valets, nous le répétons, s'étaient enfuis. Ils se dispersèrent dans le village, donnant l'alarme aux paysans et répandant la nouvelle qu'une troupe de brigands et d'assassins avait envahi le château, tué les maîtres et qu'ils allaient sans aucun doute mettre le hameau tout entier à feu et à sang. Cette terrible nouvelle se propagea avec la rapidité de la foudre. En moins d'un quart d'heure, les paysans furent sur pied, armés, les uns de fourches et de fléaux, les autres de vieilles épées rouillées et de carabines en mauvais état, mais susceptibles pourtant d'abattre fort bien leur homme. Cette armée improvisée alla prendre position dans le parc et chacun s'embusqua derrière des troncs d'arbres ou dans des massifs. Les bons picards détestaient cordialement le trio des nouveaux possesseurs des domaines de la Tremblay et ne songeaient pas le moins du monde à empêcher le pillage du château. Mais ils craignaient l'envahissement de leur propre demeure. Elles se promettaient d'exterminer bel et bien les bandits qui devaient, au dire de la Valtaille, porter la dévastation dans le village après avoir saccagé le manoir. Aussi, lorsque la Rose et ses hommes, chargés de butin et chassés par les progrès de l'incendie, se disposaient à aller reprendre leurs chevaux, ils furent, à leur grand étonnement, assaillis par une grêle de balles qui partait on ne savait d'où. Deux hommes tombèrent. Les autres, furieux, s'élancèrent, l'épée au poing, fouillèrent les massifs et répondirent aux coups de carabine par des coups de pistolet. Alors, le combat s'engagea. Il fut terrible, mais il ne fut pas long. Les aventuriers étaient mieux armés, mais les paysans étaient 20 contre 1. La petite troupe, entourée, attaquée de tous les côtés à la fois, fit une héroïque résistance. Accablés par le nombre, ces héros du crime durent succomber. Non pas cependant, sans avoir couché sur le terrain, une 20aine de leurs adversaires. Sinistrement éclairés par les lueurs flamboyantes de l'incendie, la grande avenue était jonchée de cadavres et ruisselée de sang. Deux des bandits seulement parvinrent à s'échapper, à regagner l'endroit où se trouvaient les chevaux et à sortir du parc et du village. L'un de ces hommes était la Rose. L'ex-sergent avait perdu dans la bagarre un de ses deux yeux, crevé d'un coup de fourche, et son oreille droite abattue d'un coup de fléau. Ce qui ne l'empêchait point, un mois environ après les événements que nous venons de raconter, de parader avec un bandeau sur l'œil et un emplâtre sur l'oreille à la taverne de l'Union de Mars et de Vénus, en jurant plus que jamais, par sa guitare et par son épée, et en fredonnant aussi faux que possible, « Beaux yeux d'Amaryllis, pleins de traits et de flammes, qui blessaient tant de cœurs et qui brûlaient tant d'âmes. Je pensais qu'endormi vous me seriez plus doux, mais je sens de nouveau vos blessures secrètes. Ah, vous m'avez surpris, perfide que vous êtes. Vous cachez-vous ainsi pour mieux faire vos coups. » Quant à Raoul de la Tremblay, il avait atteint Paris sans encombre et avec une rapidité singulière, car ayant vendu ses chevaux à Abbeville, il courait la poste avec Jacques et voyageait, pour ainsi dire, jour et nuit. Chose bizarre, et qu'il ne s'expliquait pas, il n'éprouvait point, et bien loin de là, cette joie surhumaine qu'il avait cru devoir résulter pour lui de sa vengeance accomplie. Son caractère devenait sombre. Les nuits, il avait des rêves sinistres, peuplés de cadavres et de fantômes, et éclairée par les lueurs rouges d'un incendie. Alors, il s'éveillait en sursaut, baigné d'une sueur froide, et malgré lui, il se demandait encore « Ne me suis-je pas trop vengé ?» Chapitre 26 Faute d'une balle. Raoul de la Tremblay avait passé bien des jours, bien des mois, bien des années à se dire qu'il ne désirait rien dans ce monde aussi passionnément que la vengeance. Il l'avait dit et il le croyait. Maintenant que ce but de sa vie venait d'être atteint, était-il heureux? Non pas. Jamais il ne s'était senti aussi profondément triste et sombre. Jamais il n'avait regardé le présent et l'avenir d'un œil aussi découragé. Plaisir, honneur, fortune, amour, tout cela lui apparaissait comme à travers un crêpe. Désormais, l'esprit de Raoul ne donnait plus audience qu'à des pensées lugubres. Le triste jeune homme ne connaissait plus que de nom le sommeil et l'appétit. Aussi le voyait-on pâlir et maigrir de la façon la plus lamentable, et le fidèle Jacques se désespérait. Raoul, en cet état de choses, fut repris par ses velléités de suicide, auxquelles nous l'avons vu jadis céder sans trop de résistance, et il les caressa complaisamment et de la meilleure foi du monde. Cependant, avant d'envoyer son âme, à laquelle il ne croyait guère, au diable, auquel il ne croyait pas du tout, il résolut de tenter un dernier effort. En d'autres termes, il décida qu'il essaierait de se rattacher à la vie par une passion quelconque. Or, de quelle passion pouvait-il se servir pour cette suprême expérience? L'amour? Mais Raoul se persuadait que son cœur était plus mort et plus glacé que celui d'un vieillard. Le vin? La seule pensée d'une ivresse habituelle inspirait au jeune homme une de ces répugnances dont on ne triomphe pas. Le jeu. Ah, le jeu. C'était vrai. Donc, restait le jeu. Raoul se dit que les cartes lui avaient donné sa fortune et que peut-être elle ne lui refuserait pas maintenant quelques-unes de ces émotions dont il avait besoin pour vivre. Ce n'était plus le gain qu'il voulait demander au tapis vert. C'était un intérêt dans sa vie. Il retourna donc à cette maison de la rue Saint-Honoré, dans les salons de laquelle nous l'avons accompagné si souvent déjà. Ici, rien ne serait plus facile à un romancier moins consciencieux que nous le sommes que de s'étendre tout à son aise et de raconter durant bien des pages d'émouvantes alternatives de pertes et de gains. Mais mon Dieu, que cela serait donc ennuyeux! Et avec quelle religieuse complaisance nous allons nous abstenir! Une demi-douzaine de lignes nous suffiront, et grandement. La chance avait tourné pour Raoul. À sa veine fabuleuse d'autrefois avait succédé une déveine invraisemblable. Il perdit avec une persistance non moins incroyable que celle avec laquelle il avait gagné jadis. Il perdit sans trêve et sans relâche, pendant un jour, pendant deux, pendant dix. Raoul se sentait au comble de la joie. L'édifice de sa fortune se démolissait comme un miracle, mais qu'importe, le jeune homme atteignait son but. Ses sombres tristesses, ses noires préoccupations avaient disparu complètement. Il se retrouvait inconscient comme jadis, plus que jadis peut-être, c'était tout ce qu'il avait souhaité. Bientôt, Raoul vit les derniers louis de son argent comptant se fondre au feu du lansquenet comme un monceau de neige au premier rayon d'un chaud soleil de printemps. Alors, il vendit le somptueux mobilier de l'hôtel qu'il occupait rue du Pas de la Mule, puis ses tableaux, puis ses chevaux, puis ses bijoux, puis sa garde-robe tout entière, ou à peu près. À l'exception de Jacques, les valets avaient été congédiés. Raoul loua dans la rue Richelieu, à un troisième étage, un très petit appartement meublé, et s'y installa. L'argent produit par les ventes successives dont nous avons parlé s'en alla rapidement. Un beau jour, il ne resta plus au jeune homme que 30 louis. La montre armoriée qui lui venait du marquis Réginald, et qui a joué un si grand rôle dans cette histoire, et une paire de pistolets gardés dans le but de se faire un beau matin ou un beau soir sauter la cervelle. Raoul mit 20 louis dans sa poche et s'en alla au jeu, avec le projet, si la veine ne lui était point redevenue favorable, de donner à Jacques les 10 louis restants avant de se loger une balle dans la tête. La veine n'avait point tourné. Les 20 louis disparurent en 5 minutes. Raoul prit très philosophiquement son parti de cette situation, prévue par lui depuis longtemps. Il quitta la maison de jeu, et tout en sifflotant du bout des dents un air à la mode, il revint chez lui pour se tuer. Il monta donc ses 3 étages, et comme il avait donné à Jacques la permission de sortir, il ouvrit la porte lui-même avec une clé qu'il avait dans sa poche. Il alluma une bougie. Il enveloppa les 10 louis dans une feuille de papier blanc sur laquelle il écrivit « Ceci est un souvenir pour mon fidèle Jacques ». Puis, cela fait, il prit les pistolets et en examina le bassinet afin de s'assurer que la poudre de l'amorce était sèche. Raoul eut en ce moment une violente et désagréable déception. Le bassinet était vide. Il enfonça la baguette dans chacun des canons. Ces canons n'étaient point chargés. Raoul frappa du pied avec colère et fouilla dans un meuble pour y trouver de la poudre et des balles que 2 jours auparavant il y avait placées lui-même. Vaine recherche. La poudre et les balles avaient disparu. « Ah, de par tous les diables !» s'écria Raoul avec une véritable fureur. « Voici qui devient trop fort !» Et il continua ses investigations dans l'appartement. Elles ne produisirent pas le moindre résultat. Aucun tiroir ne renfermait le moindre grain de poudre ou de plomb. Les pistolets étaient ce soir-là les armes le plus parfaitement inoffensives du monde entier. Nous ne devons point laisser partager à nos lecteurs l'étonnement naturel de Raoul. Rien de plus simple et de plus facile que de leur expliquer ce fait qui sembla inouï à Monsieur de la Tremblay. Guidé par l'instinct de son attachement, Jacques redoutait de voir son maître prendre à l'improviste un parti terrible. La persistance de Raoul à garder ses pistolets, tandis qu'il se défaisait de tant d'autres objets, en apparence plus utiles, avait redoublé les craintes du jeune valet de chambre. Au risque donc d'encourir la colère et de supporter les reproches de son maître, il avait déchargé les pistolets et caché la poudre et les balles dans la paillasse de son propre lit. Or, il était beaucoup trop tard pour que Raoul pût songer à acheter cette nuit-là d'autres munitions. Force lui était donc de renoncer, momentanément du moins, à son projet meurtrier. Il lui restait, à la vérité, la ressource de se jeter par la fenêtre ou de se passer son épée au travers du corps. Mais le suicide a ses manies, ni plus ni moins que toutes les autres passions. Tel Anglais se coupe la gorge avec un rasoir par un jour de brouillard, qui ne se pendrait pour rien au monde. Tel autre, au contraire, s'accroche fort confortablement à un clou planté ad hoc, qui ne voudrait point se risquer à la glaciale morsure de l'acier. Le négociant qui se tue pour cause de faillite, existe-t-il encore aujourd'hui, procède avec le pistolet. L'arsenic lui ferait horreur. Proposer à la grisette amoureuse de se détruire autrement que par le charbon allumé dans un réchaud, l'infusion de gros sous vers de grisé dans du vinaigre, ou par le plongeon dans la Seine ou dans le canal Saint-Martin, et vous verrez de quel air elle vous recevra. Quelques-unes, il est vrai, essayent de se plonger dans le cœur de très petits ciseaux à découper la broderie. Mais, comme elles n'y parviennent point généralement, nous ne mentionnons cette exception que pour mémoire. Bref, Raoul voulait mourir en se brûlant la cervelle, et pas autrement. Quand son premier désappointement fut un peu passé, quand son premier courroux se fut exhalé, il se dit « Vivons jusqu'à demain matin, puisqu'il le faut absolument. Somme toute, cette nuit sera bientôt passée. » Mais immédiatement après, et par manière de réflexion, il ajouta « Bientôt passée ? Pas déjà tant, car que faire la nuit, à moins que l'on ne dorme ? Et certes, je ne songe guère à dormir. » À force de chercher l'emploi des quelques heures qui lui restaient à vivre, Raoul finit par le trouver. « Allons au bal de l'opéra, » se dit-il. « Là, du moins, j'attendrai le jour en nombreuse et bruyante compagnie. » Cette résolution, une fois prise, Raoul défit le petit paquet préparé pour Jacques. Il mit les 10 louis dans sa poche et il quitta l'appartement et la maison, non sans regretter le profond repos que quelques grains de soufre et de salpêtre noircis et un petit morceau de plomb n'auraient point manqué de lui procurer. Singulière disposition pour aller au bal. Nous pensons qu'aucun de nos lecteurs ne fera difficulté d'en convenir. Chapitre 27. Le bal masqué. Dès le mois de novembre de l'année 1716, M. le duc d'Orléans, régent de France, avait accordé au duc d'Antin la permission de donner chaque hiver des bals masqués dans la salle de l'opéra. Le nombre de ces bals fut dans l'origine réglé à 3 par semaine. Cette fondation d'un amusement nouveau eut dès l'abord un immense succès. Ce qui contribua sans aucun doute à cette vogue, c'est qu'un certain père Sébastien, religieux carme, qui, tout moine qu'il était, ne voulait point rester étranger aux plaisirs mondains, avait trouvé le moyen d'élever facilement et en moins d'une heure le plancher du parterre au niveau de la scène. La scène, ainsi réunie à la salle, forma un local immense, éclairé par une multitude de lustres, et dans lequel la foule des gens masqués et déguisés donna ses costumes bizarres et bigarrés et ses multiples intrigues en spectacle aux gens plus calmes qui remplissaient les loges. Cette comédie, au dire des contemporains, en valait au moins une autre. Le plus grand nombre des dames, sous le prétexte assez vraisemblable de la chaleur excessive, finissaient, au bout d'un peu de temps, par se découvrir le visage et laisser voir ainsi, dans des scènes fort animées, des expressions que le masque immobile aurait malheureusement cachées. C'était en vérité peu de choses que les 5 livres qu'il fallait donner à la porte pour jouir d'un semblable coup d'œil. Certes, personne n'eût regretté de payer même un louis par tête les jours où le régent, paraissant à l'opéra, venait s'offrir aux bons parisiens comme supplément de spectacle. Assez souvent, on pouvait voir Son Altesse Royale parcourir cette arène de folie en tenant par la main une de ses maîtresses, chancelante comme lui, sous le poids d'une demi-ivresse et entourée de ses rouées, ivre tout à fait. Un certain soir, après le souper du Palais Royal, l'ivresse du régent était telle que l'un de ses favoris, M. de Canillac, craignit que si Son Altesse descendait en cet état dans la salle de l'opéra, le spectacle ne devint trop burlesque pour les loges. En conséquence, il supplia Son Altesse de vouloir bien se coucher, affirmant de la façon la plus positive et la plus convaincante que la poussière, la chaleur, l'éclat des lustres, la musique et le bruit de la foule ne pourraient manquer de lui donner une abominable migraine. Le duc eut l'air d'acquiescer à la prière de Canillac. Il se mit au lit en sa présence, et pour se débarrasser plus promptement de sa surveillance importune, il se mit à ronfler, comme un homme profondément endormi. M. de Canillac, enchanté du résultat qu'il venait d'obtenir, sortit sur la pointe du pied en se frottant les mains. À peine venait-il de refermer la porte derrière lui que le régent cessa de ronfler, ouvrit les yeux, et joyeux comme un écolier en maraude, s'élança hors du lit et sonna ses valets de chambre. Il se fit habiller, descendit dans la salle du bal et la traversa à plusieurs reprises en chancelant et titubant, d'une façon qui ne tarda pas à attirer sur lui l'attention générale. Le lendemain, le duc d'Orléans, sachant que M. de Canillac était informé de son escapade, dit en le voyant entrer « Voilà mon mentor qui va bien me gronder de ce que je fis hier malgré lui. » « Ne le craignez pas, monseigneur, » répondit le gentilhomme, « car jamais vous ne serez mon Télémaque. » Dans la disposition d'esprit où se trouvait Raoul, nous savons qu'il ne venait point au bal de l'opéra pour y chercher un plaisir, mais tout simplement pour tuer le temps pendant quelques heures. Le jeune homme voulait bien sentir autour de lui du bruit, du mouvement et de la joie, mais il ne consentait point à être distrait forcément et malgré lui des pensées fort peu couleur de rose, dans lesquels il s'absorbait. En conséquence, et afin d'éviter l'obsession des importuns et l'odieux bavardage des indifférents, Raoul loua au vestiaire un domino noir et un masque. Grâce à cette double précaution, il était complètement impossible qu'il fût reconnu par qui que ce fût. Puis il monta le grand escalier et se jeta résolument au plus fort de la cohue, coudoyant à droite et à gauche, sans se préoccuper des murmures menaçants qui s'élevait sur son passage, dans les groupes qu'il disjoignait. On comprend facilement qu'un duel, et même une douzaine de duels, doivent sembler choses de médiocre importance à l'homme qui compte le lendemain matin se brûler gaillardement la cervelle. Ce n'est pas cependant que Raoul chercha une querelle. Oh, mon Dieu, non! Le coup de pistolet qu'il se destinait lui souriait autant pour le moins qu'un coup d'épée donné par une main étrangère. Mais il trouvait une sorte de petite distraction à faire naître autour de lui ses courroux. Et il continuait à fendre la presse, ni plus ni moins qu'un mari jaloux qui court après sa femme égarée dans la foule. Du reste, chose bizarre, presque phénoménale et que nous n'entreprendrons pas d'expliquer, Raoul, sur son chemin, récolta beaucoup d'injures, mais ne rencontra aucune querelle. Fatigué bientôt de ce travail herculéen qui consistait à séparer violemment les massifs compacts de cette agglomération humaine, Raoul se rendit au foyer. Là, il se promena longtemps, aussi lugubre au milieu des folles intrigues d'amour qui se nouaient et s'enchevêtraient autour de lui que le trappiste, debout au bord de la tombe, qu'il creuse pour lui-même et à qui une voix incessante répète « Frère, il faut mourir !» Cependant, peu à peu, il sortit à demi de cette morose préoccupation. Voici comment et voici pourquoi. La plupart des dominos féminins qui se promenaient dans le foyer étaient noirs. Raoul, dans sa promenade solitaire, ne put s'empêcher de remarquer une jeune femme qui, à 10 reprises différentes, se croisa avec lui. Cette jeune femme semblait absolument seule. Elle portait un demi-masque de velours à barbe de satin. Son domino était rose. Cette couleur vive et gaie tranchait sur les costumes sombres et attirait invinciblement le regard.